Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Associations, projets collectifs, souvent des lieux d'engagement et de convivialité. Mais certains projets vont encore plus loin. De par leur choix de structure et de fonctionnement, ils deviennent aussi parfois des lieux de résistance politique et écologique. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Amélie Villet, chef de projet développement territorial à la CRES des Pays de la Loire, mais également animatrice à Cap Tiers-Lieux, le réseau régional des tiers-lieux ligériens. Mais tout d'abord, direction la forêt de Brocéliande à Concoret, dans le Morbihan. Ici, un bistrot, la maison d'Ernestine, était en train de fermer. Alors des habitants ont décidé de se réapproprier les lieux. Ils ont décidé de pousser très loin pour ce lieu les logiques de propriété collective, de hors-marché et de gouvernance horizontale. C'est un reportage signé Olivia Morand-Jurado de Timbre FM, votre radio associative dans le pays de Brocéliande.
Nous sommes mardi, et les mardis, c'est jour de cantine à la maison d'Ernestine à Concoret. J'y retrouve les adhérents et adhérentes en pleine effervescence. Ils terminent de préparer le repas, de mettre la table, de réparer une fuite d'eau ou bien sont encore en pleine réunion. La maison d'Ernestine, c'est toute une organisation. Une organisation autrement que nous allons découvrir ensemble.
Moi, je m'appelle Agnès et je suis membre actif de la maison d'Ernestine depuis sa création, donc depuis 2014.
Du coup, moi, c'est Simon. Je suis aussi un des membres actifs de la maison d'Ernestine. Donc, les membres actifs, c'est les gens qui se portent volontaires, en gros, pour essayer de gérer un peu une sorte de conseil d'administration, mais qui est ouvert en permanence à tous les gens qui auraient envie de participer à réfléchir, à répondre à toutes les problématiques qu'il y a quand on a un lieu collectivement comme ça. Et voilà, donc moi je fais aussi partie des premières personnes à s'être mobilisées autour de ce projet-là et avoir essayé de monter un projet collectif comme ça sur Concoret. L'historique du début, c'est que, en gros, il y avait un bistrot sympa dans le bourg qui avait un peu cette fonction d'endroit où les gens puissent se retrouver, discuter, se rencontrer, faire des projets, tout ça. Et ce bistrot-là a fermé. Et on s'est vite dit, mais en fait, on a plus cet endroit de rencontre un peu quotidien, régulier, qui permet à ce que ça brasse un peu des gens différents, que les gens puissent se rencontrer, se voir en vrai aussi, dans un monde où il y a maintenant, qui est beaucoup envahi par des relations très numériques, on va dire.
En fait, c'est une émanation d'habitants, en fait. C'était ça qui était important pour nous. Et c'est pas une commune, c'est pas une collectivité qui a eu cette idée-là. C'est vraiment des habitants. Donc, on était un petit groupe à initier ce projet sur Concoret. Ce qui était important, c'est d'avoir un lieu et d'acheter cette maison, puisque cette maison, elle était en vente depuis 8 ans. Et par ailleurs, en fait, elle appartenait à une personne qui était décédée depuis un petit moment déjà, Ernestine. Et Ernestine, en fait, est un petit peu une gloire locale, en fait, dans le sens où elle était devenue un peu conteuse, dépositaire de la langue galaise sur Concoret. Et qu'en plus, elle accueillait en fait les gens du bourg qui passaient à l'heure du café pour leur offrir le café dans sa cuisine. Et voilà, elle offrait aussi le café tous les matins aux gens du CPIE qui travaillaient donc juste à côté, en ouvrant la porte et en disant « le café est prêt !» Et donc voilà, et on se retrouvait dans sa cuisine, autour de la table, à boire le café avec elle. Donc c'était plutôt... Donc on trouvait que cet état d'esprit, ça nous correspondait bien aussi. C'est ce qu'on avait envie, ce que je répète depuis tout à l'heure, valeurs, un lieu d'accueil en fait, un lieu qui accueille tout le monde. C'était important pour nous aussi. Et de savoir après, de se mobiliser, de savoir pourquoi faire, quel état d'esprit on voulait aussi, quelle philosophie on avait envie de mettre en place dans cette maison-là, sachant qu'on portait, on avait décidé dès le début de porter un projet assez politique. Et puis après, bien, comment est-ce qu'on allait faire aussi pour l'acheter ? Puisqu'en fait, c'était bien joli d'avoir cette idée-là, mais il fallait trouver aussi, organiser l'achat de la maison, voilà, comment on allait faire.
L'idée, c'est qu'il y avait un peu deux choses. C'est donc qu'il y avait cet espace, cette maison qu'on voulait acheter pour faire des activités. Mais nous, ce qu'on avait envie, c'est que vraiment une propriété collective, et pas du tout une propriété individuelle. Donc en gros, on a cherché quelle structure pouvait porter cette idée-là. Et bon, on voit bien que le droit français, il est pas fait pour ça. Du coup, on a pris une structure classique qui est la SCI. Et puis on l'a un petit peu torturé pour que ça rentre dans nos valeurs à nous.
Bon, en fait, il y a une plénière toutes les 3 semaines qui rassemble les membres actifs. Et les membres actifs, ce ne sont pas des personnes qui sont désignées au moment des AG, comme ça peut se faire dans d'autres associations. C'est les gens qui s'intéressent à la gestion et au fonctionnement de l'association et qui donc participent à ces réunions. Donc en fait, elles sont même dans l'agenda pour qu'effectivement tous les adhérents soient au courant et puissent venir, soit parce qu'ils ont une idée à apporter, soit parce qu'en fait ils ont envie de s'intéresser ou de voir comment ça se passe. Et après, en plus de la plénière, il y a des commissions qui se sont créées, donc de personnes qui se sont intéressées par exemple aux travaux et qui se sont mobilisées pour gérer un petit peu les travaux. Et surtout les chantiers participatifs qui sont souvent accompagnés par des professionnels. Donc voilà, et qui ont permis que les choses avancent, ou des chantiers qui sont faits uniquement avec des adhérents.
Je pense que c'est une idée un peu fondamentale de comment est-ce qu'on veut, organiser la vie. Moi, je dirais que ça rejoint comment je voudrais que la gestion municipale ou autre soit faite. En fait, c'est plutôt que les gens s'approprient la chose politique, quoi, l'organisation des choses, et se donnent les moyens de faire exister ce qu'ils ont envie de voir exister. C'est une implication d'un collectif un peu large de comment tout doit fonctionner, bien fonctionner, et c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est pas délégué à un bureau qui doit se dépatouiller avec tous les problèmes, quoi. C'est plutôt et qui potentiellement prend des décisions de manière plus ou moins autocratique. Il y a quand même un certain nombre d'associations qui peuvent avoir ce travers-là. Et du coup, nous, on voulait quelque chose de beaucoup plus, disons, démocratique, pour employer un gros mot. Et mais oui, quelque chose d'une vraie organisation collective, quoi. Alors je dirais que ça n'empêche pas certaines formes de délégation, parce qu'il y a des commissions, parce que tout le monde ne peut pas s'intéresser à où est-ce qu'on va mettre chaque vis non plus, quoi. Mais trouver une forme d'organisation, au moins les décisions, elles sont prises collectivement. Et après, on peut déléguer à des personnes ou des commissions le fait de débroussailler les problèmes. C'est un peu ça, quoi. On peut dire, par exemple, les travaux, je sais pas, il y a un enduit à refaire ou un escalier à monter. La commission travaux, ou particulièrement des personnes qui se disent « moi, je suis volontaire pour m'investir là-dedans », ils débroussaillent les problèmes, ils proposent des solutions, et du coup, en plénière, ils viennent proposer les solutions. Et du coup, il y a une discussion collective, chacun donne un peu son avis, fait des remarques. Du coup, on met un peu... c'est l'idée de mettre l'intelligence collective en branle pour choisir la meilleure solution. Et puis, en fonction de ça, on prend une décision ensemble. Et du coup, la commission va appliquer cette décision. Voilà, je pense que c'est un peu la façon dont ça fonctionne.
En tout cas, il y a de plus en plus d'activités, de propositions d'activités. Et en fait, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de s'essayer ou ont envie de proposer, de partager leur passion et d'activités qui se viennent en plus assez régulières. Parce qu'effectivement, il y a toutes un petit peu les one-shots, en fait, du coup, les activités d'une fois. Mais il y a aussi pas mal d'activités qui sont maintenant régulières et qui permettent d'avoir des repères dans l'agenda de la maison d'Ernestine. On sait que tous les mardis, il y a ça, tous les mercredis, voilà, il y a des choses qui reviennent régulièrement et c'est plutôt intéressant. Et il y a des nouvelles activités régulièrement aussi. Et pour la cantine, par exemple, en fait, les équipes qui préparent à manger sont des équipes de bénévoles qui se renouvellent régulièrement puisqu'il n'y a pas de salariés à la maison d'Ernestine.
Du coup, ici, c'est un endroit où personne n'est rémunéré pour porter une activité, quoi. Il n'y a pas d'atelier payant, de choses comme ça. La seule chose qu'il peut avoir, c'est une participation aux frais. Par exemple, il y a des ateliers d'art plastique. Des fois, pour les fournitures, chacun met un peu de sous pour payer les fournitures de tout le monde, quoi. Voilà, ça c'est quand même un des volets importants et je pense un peu particulier de la maison d'Ernestine, c'est cette volonté d'avoir un fonctionnement non marchand le plus possible, quoi. Même si ça nous arrive pour quelques travaux de faire appel à des professionnels et de les payer parce qu'on n'a pas les compétences ou l'énergie ou des choses comme ça. Mais de manière générale, c'est un endroit où on ne vient pas gagner sa vie, quoi. C'est un endroit où on vient donner, partager, recevoir, mais en dehors de l'histoire de rémunération, quoi.
À l'instant, ce reportage de Timbre FM sur cette maison d'Ernestine à Concoret dans le Morbihan. Alors nous l'avons compris, ce projet de lieu de convivialité au service des associations locales, eh bien c'est articulé autour de la recherche de la propriété collective de cette maison, mais aussi d'un modèle de fonctionnement non marchand et d'une gouvernance réellement partagée. Mais en quoi cette façon de faire constitue également peut-être une bonne base d'écologie populaire ? Eh bien, pour en parler, nous sommes en ligne avec Amélie Villet, chef de projet développement territorial à la CRES Pays de la Loire, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, mais également animatrice CAP Tiers-Lieu, réseau régional des tiers-lieux ligériens. Bonjour Amélie Villet.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous connaissiez peut-être déjà cette fameuse maison d'Ernestine ? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette expérience réalisée dans le Morbihan ?
Eh bien, pas du tout. Moi, je suis plutôt basée sur les Pays de la Loire, donc je suis plutôt connaisseuse des tiers-lieux ligériens. Mais du coup, c'était une découverte pour moi.
Ouais. À votre connaissance, ce type de projet, ça existe assez fréquemment dans votre région, dans les Pays de la Loire ?
Alors, je ne sais pas s'il se revendique tiers-lieux ou pas, mais je trouve qu'il embrasse les contours de ce que sont les tiers-lieux, à savoir des lieux qui sont ouverts, tant dans les actions et dans la gouvernance qu'ils ont, qui permettent des usages multiples des lieux et puis qui agissent à une échelle locale, voire ultra-locale. En Pays de la Loire, on en dénombre une centaine qui ont des formes très différentes qui sont liées à la fois au territoire et au collectif qui ont ou a monté le lieu. Et la majorité déclare en plus travailler sur des sujets d'écologie. J'en cite quelques-uns pour
les
auditeurs et auditrices. Je pense à SOFA, au Cellier, en Loire-Atlantique, ou encore à la Casa Félis à Sablé-sur-Sarthe, en Sarthe. Et côté breton, il y a Maison Glaze à Gavre, dans le Morbihan, et puis le lieu dit à Brest.
Alors, les membres de ce projet de la maison d'Ernestine, ce qui est assez particulier d'entrée, c'est qu'ils expliquent dans ce reportage avoir finalement poussé très loin le droit de la propriété foncière collective pour leur garantir à ses membres une réelle copropriété ou une propriété collective de cette maison. Pour vous, Amélie Villet, en quoi la maîtrise foncière collective, enfin en tout cas le fait de la rechercher via un groupe d'habitants, est-elle finalement un premier pas vers l'écologie populaire ?
Si on entend par écologie populaire une justice sociale écologique ou en tout cas le fait de ne pas faire de transition écologique sans inclure l'ensemble des habitants et habitantes, y compris les personnes précaires, je dirais que la maîtrise foncière, c'est une assurance en plus de d'autres assurances, de pouvoir porter des projets sur du long terme et du coup qui peuvent réellement s'ancrer sur les territoires en réponse aux besoins du territoire, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Et ça permet à tous et toutes de profiter d'un espace de vie ouvert sur le territoire en se projetant sur du long terme. Je dirais que c'est cependant pas très commun pour les tiers-lieux. Il y a seulement 30% des lieux qui sont propriétaires de leurs murs. Donc je dirais que c'est une richesse pour la maison d'Ernestine d'en être propriétaire. Et après, en écoutant le reportage, ça me fait penser à la notion de commun, une ressource qui soit portée et gérée par un collectif. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'a initié l'idée de départ de la maison Ernestine.
Autre axe fort de ce projet, Amélie, qu'on a pu bien comprendre dans le reportage, on est dans un projet qui assume là aussi des valeurs non marchandes. Est-ce que ça peut être peut-être une forme d'écologie populaire de choisir un tel fonctionnement ?
Moi, j'ai l'impression que ça permet une ouverture du lieu et des activités à tous et toutes et d'engager aussi les usagers et usagères du lieu plus loin dans le projet. Ils ne sont plus uniquement consommateurs et consommatrices du lieu, mais ils deviennent de réelles parties prenantes qui ont de quoi donner au lieu pour le faire vivre. Et je trouve que ça soulève par contre la question de l'hybridation des modèles économiques des lieux. Pour l'expliquer en des termes plus simples, les lieux et notamment les tiers-lieux, ils ont besoin de pouvoir payer les charges du lieu, que ce soit les fluides, les emprunts, les salaires. Et du coup, forcément, il y a un équilibre économique à trouver entre les activités non lucratives, donc celles qui ne génèrent pas ou peu d'argent, et puis des activités qui soient un peu plus rémunératrices et qui permettent d'équilibrer ce modèle. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'économie sociale et solidaire, on parle de non-lucrativité. On garde la notion d'argent et l'argent comme moyen d'échange. Ça reste le mode de paiement des salariés, par exemple. Mais par contre, l'idée, c'est que l'argent ne puisse pas servir à enrichir un capital privé, et bien que l'ensemble des bénéfices soient répartis et redistribués au service du projet. Ça peut être facilité notamment par des monnaies locales.
Très bien. Enfin, les membres de cette maison d'Ernestine, Amélie, tiennent également dans ce projet à ce que sa gouvernance soit vraiment partagée, qu'on soit pas dans le fait de déléguer, par exemple, toutes les décisions à un conseil d'administration, un bureau, mais que l'on fasse fonctionner à plein ce qu'ils appellent l'intelligence collective. Alors là aussi, est-ce que ce type de gouvernance tend aussi vers à la fois, bien sûr, plus de démocratie, mais aussi vers peut-être plus de façons de faire qui vont vers l'écologie populaire?
Je trouve qu'il y a trois choses intéressantes. La première, il y a l'intelligence collective en mobilisant l'ensemble des parties prenantes qui composent un collectif. Les solutions qu'on apporte à des problématiques qui peuvent être complexes sont plus riches. Et du coup, on peut imaginer des solutions locales qui sont réellement bénéfiques aux besoins des territoires et aux besoins des habitants et habitantes. La deuxième chose, c'est la notion de démocratie dans un collectif avec une gouvernance structurée. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on permet aux personnes qui en sont membres de décider sur l'organisation et ce qui est porté dans le lieu et de penser collectivement ce projet. Et je trouve que la démocratie, c'est un pilier intéressant si on parle d'écologie populaire. Et le troisième point, c'est aussi que quand on apprend très localement à coopérer, on s'ouvre petit à petit à coopérer à une échelle plus large, une échelle de territoire. Et ça peut se faire avec plein de typologies d'acteurs, avec d'autres lieux, d'autres tiers-lieux, avec d'autres structures du territoire, qu'elles soient économiques ou pas, privées ou non. Et là-dessus, c'est ce que travaillent les pôles territoriaux de coopération économique, dans lesquels certains tiers-lieux sont impliqués. On peut penser côté Pays de la Loire, au Grand Lieu du Comte, la Maison des Possibles, à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, ou encore à Cultivons les Cailloux, à Ancenis.
Voilà des exemples aussi intéressants. Est-ce qu'il y a cette idée aussi de, finalement, le fait qu'on décide ensemble, il y a plus d'arbitrage sur ce qu'on va consommer, par exemple ?
Oui, je pense que dans tous les cas, à un moment ou un autre, ça permet de se poser la question de c'est quoi les règles qu'on se fixe, y compris sur des choses qui peuvent paraître être du détail, comme comment est-ce qu'on utilise l'imprimante. Mais ça peut être notamment pour les lieux qui animent des cafés associatifs, où c'est qu'on veut acheter les produits.
Ouais, s'approvisionner, ouais, tout à fait.
Ouais, s'approvisionner. Et oui, le fait que chacun et chacune ait son mot, c'est aussi une manière de pouvoir dire ce qui tient à chacun et chacune, et ça peut ressortir des valeurs de on veut que ce soit du circuit court, du 30 km maximum, etc.
Alors pour terminer, Amélie, si nos auditrices et auditeurs souhaitaient aller plus loin, au-delà de cet entretien sur ces sujets, des liens existants entre cette propriété collective, les valeurs non marchandes, la gouvernance partagée et l'écologie populaire, est-ce que vous auriez peut-être quelques références d'articles, d'ouvrages ou de sites à nous conseiller ?
Eh ben, côté économie sociale et solidaire, ils peuvent lire la note de la CRES Pays de la Loire sur l'économie sociale et solidaire. La réponse à la transition écologique ne peut être que solidaire, collective et coopérative, qu'on peut retrouver en ligne. Et le labo de l'ESS qui a publié aussi une étude sur l'éducation populaire au service de la transition écologique juste des territoires. Et puis sur le sujet des tiers-lieux, n'hésitez pas à vous tourner vers vos réseaux régionaux de tiers-lieux. En Bretagne, c'est Bretagne Tiers-lieux. Et pour les Ligériens, c'est Cap Tiers-lieux.
Merci beaucoup, Amélie Villet.
Merci.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.